J'aimerais lire deux textes, le premier dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire des apparences et non pas de ce qui est dans le cœur. Verset 14, l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous. Tous donc sont morts. Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, dit l'apôtre Paul, maintenant nous ne connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses, toutes choses, sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous une parole de réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, moi, dit Paul, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, en douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et il y a un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Et verset 16, de lui le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie, et il s'édifie lui-même dans l'amour. Au cœur de l'existence des groupes bibliques universitaires, il y a la mission d'évangéliser. Parmi les objectifs aussi bien de l'association UGBUF qu'AGBULF, j'espère que ces onomatopées vous sont familières, au cœur des objectifs des deux différentes associations se trouve l'évangélisation ou le soutien à l'évangélisation dans les campus universitaires de France. On a parlé pendant ce congrès de la vie dans l'esprit, de la marche selon l'esprit. Je voudrais dire que je ne vois pas comment nos mouvements respectifs pourraient marcher dans l'esprit sans être évangélisateurs. Si c'est de l'esprit que nous tenons notre vie, si c'est lui qui nous fait marcher, comment négligerions-nous le devoir d'évangéliser ? L'ère du Saint-Esprit, le temps du Saint-Esprit, le temps des derniers temps qui a commencé le jour de la Pentecôte, lors de l'effusion du Saint-Esprit, c'est ici, dit l'apôtre Pierre, ce qu'a prédit le prophète Joël. Les derniers jours, les jours de l'effusion du Saint-Esprit. Si l'ère de l'effusion du Saint-Esprit commence à la Pentecôte, c'est l'ère aussi de l'évangélisation jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui en a donné mission. Et le livre des Actes, qui s'ouvre par l'événement de l'Ascension et de la Pentecôte, montre la flambée évangélisatrice qui part de Jérusalem le jour même de la Pentecôte, qui gagne bientôt la Samarie, Actes chapitre 8, et les Samaritains, et puis qui touche les païens, la conversion du centenier Corneille, Actes chapitre 10, par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre, et puis tout le travail accompli par l'apôtre Paul, appelé pour évangéliser les païens. La grande épopée du Saint-Esprit qui commence le jour de la Pentecôte. Nous y entrons si nous acceptons cette mission évangélisatrice et nous rentrons dans ce souffle qui a commencé ce jour-là et qui continue aujourd'hui. J'aimerais que nous donnions à notre vision de l'évangélisation une dimension historique, que nous sortions de la sphère strictement locale et temporelle dans laquelle nous sommes, mais que nous puissions situer ce que nous sommes, ce pourquoi nous travaillons dans une vision de l'histoire du monde et de ce temps de l'histoire du monde qui a commencé à la Pentecôte. Paul écrit « Parce que nous connaissons la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. » J'aimerais souligner dans cette déclaration de l'apôtre Paul une expression, celle qui commence sa déclaration. puisque nous connaissons la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, non pas la peur qui fait trembler, mais le respect du Seigneur qui fait adorer. Puisque nous connaissons la crainte du Seigneur, alors nous cherchons à convaincre les hommes. Personne n'a le droit de nous faire mission d'évangéliser. Personne n'a le droit de mettre sur nos épaules le fardeau de l'évangélisation si ce n'est la parole du Seigneur lui-même. On ne peut pas demander à quiconque d'évangéliser pour être obéissant. C'est chacun qui doit entendre cette parole du Seigneur et qui doit vivre cette parole et cet ordre du Seigneur dans la crainte qu'il a, lui, du Seigneur. Cela veut dire, en filigrane, que l'évangélisation, la mission d'évangéliser que nous avons, ce n'est pas le moyen que Dieu nous a donné ou que Dieu donne à un groupe ou à une église de s'auto-reproduire. Dieu ne nous donne pas mission d'évangéliser pour nous conserver nous-mêmes, ni pour grandir nous-mêmes. Jamais l'évangélisation n'a ce but-là dans l'Écriture. Nous sommes des porteurs d'une parole de réconciliation. Et c'est dans l'ordre du Christ que nous enracinons cette mission, nulle part ailleurs. Pas dans les exigences de la communauté où nous sommes, pas dans les exigences du mouvement dans lequel nous sommes. On voit trop souvent des groupes bibliques universitaires, d'autres groupes, des églises, rester tout à fait interdits devant le peu de résultats de leurs efforts. C'est assez étonnant comme expression, de leurs efforts d'évangélisation. Alors même qu'elles pensent justement en évangélisant être fidèles à la volonté de Dieu et l'être également dans leur doctrine et dans leur vie. Alors pourquoi ? Pourquoi si peu de fruits ? On avance deux explications. La première, c'est que le monde est difficile. Le cœur des gens est dur. L'indifférence gagne. Nous sommes, dit-on, dans une ère de post-chrétienté. Et vous croyez que c'était plus facile dans une ère de pré-chrétienté ? Et parce que le monde devient dur, et que les gens s'endurcissent, et que la mission devient moins rentable, alors, on se replie volontiers dans une position d'attente. On met de plus en plus l'accent sur les exigences de fidélité de plus en plus sourcilleuses, car la dureté du temps indique que le Seigneur est proche. Il va revenir, il suffit de l'attendre. Et on oublie deux choses. La première, c'est que la dureté des derniers temps, elle dure depuis longtemps. Je l'ai indiqué tout à l'heure. Elle dure depuis au moins le jour de la Pentecôte. Et la deuxième chose qu'on oublie, c'est que le Seigneur ne revient pas. Et je maintiens. Le Seigneur ne revient pas, le Seigneur vient. Et c'est tout différent. Le Seigneur vient. Et vous savez comment il vient ? Il vient au travers même de la proclamation de sa parole, au travers même de la mission d'évangéliser qu'il nous fait. Quel contresens de s'enfermer à l'intérieur de ses frontières pour attendre le Seigneur. Évangéliser, si j'ose dire, c'est faire venir le Seigneur, c'est hâter son avènement. La deuxième attitude possible, c'est, certes, le diagnostic nous oblige à reconnaître que les gens sont durs, alors il faut mettre le paquet. Et on se lance dans une recherche fébrile de nouveaux moyens techniques d'évangélisation. On investit de plus en plus de temps, d'argent, dans des efforts louables, sans doute, coûteux toujours, et de préférence spectaculaires, puisqu'il s'agit d'attirer l'attention des gens qui ne veulent pas regarder vers vous. Et même si les résultats, comme on dit, ne sont guère encourageants, comme il n'y a pas de solution de rechange, eh bien il faut essayer de persévérer et, si possible, d'accroître l'intensité des efforts. Je lisais l'autre jour un article relativement sévère et l'auteur a une phrase qui résume bien sa sévérité. Je vous la livre sans la faire entièrement mienne, mais j'y trouve l'écho de quelque chose qui me semble vrai quand même. L'évangélisation tend à n'être plus qu'une invitation sans espoir adressée à des hommes et à des femmes là où ils ne se trouvent pas et leur demandant de venir là où ils n'ont aucune envie de se rendre. On peut toujours se demander si les deux attitudes que je viens de décrire ne sont pas une façon de fuir le vrai problème qui nous est posé au travers de l'ordre d'évangéliser que nous fait Jésus-Christ. Dans la chaîne de l'évangélisation qui part de l'émetteur, qui passe par le canal et qui arrive au récepteur que l'on cherche, qui se fait rare, dans cette chaîne, il peut y avoir le terminal qui refuse de fonctionner. Ça, c'est la première hypothèse. C'est le récepteur qui est dur, qui comprend rien, qui n'entend rien. La deuxième hypothèse, c'est que le moyen technique, le canal, n'est pas suffisant. Il faut le renforcer. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se pose jamais des questions sur l'émetteur? Pourquoi on ne se pose pas de questions sur celui qui envoie le message? La conférence d'hier soir, ou d'hier matin plutôt, peut nous faire réfléchir de ce point de vue-là en particulier. Si le message n'est pas clair, vous vous souvenez la matrice de distorsion? Je crois qu'elle va rester dans la mémoire collective du Congrès, là. La matrice de distorsion. Mais si l'émetteur lui-même est brouillé, quel message va-t-il pouvoir faire parvenir? Alors, au lieu de parler d'abord des efforts d'évangélisation, je voudrais souligner les efforts dont parle l'Écriture. Et si je relis le début du chapitre 4 des Éphésiens, que dit Paul? Il dit « Efforcez-vous », message à l'église d'Éphèse, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Voilà à quoi doivent porter d'abord nos efforts. Et il me semble qu'on ne peut pas bien comprendre ça sans ressaisir ce qui fait notre identité profonde et quelle est la tâche prioritaire qui nous est demandée d'accomplir. Notre identité nous est donnée par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous a adressé la vocation de la part du Père et du Fils. et c'est lui qui constitue le corps dans lequel nous entrons dès lors que lui entre en nous. Et tout cela nous est donné. L'unité du Saint-Esprit entre tous les croyants est donnée avant même toute initiative de leur part. À partir de ce moment-là, nous devons nous efforcer de conserver l'unité qui nous est donnée. Et je vous ferai remarquer que cette expression « conserver l'unité de l'esprit » est en contraste, et je suis sûr que Paul l'a fait exprès, avec l'expression que nous trouvons au verset 13, où il est question de parvenir à l'unité de la foi. L'unité de l'esprit est donnée et nous avons mission de parvenir à l'unité de la foi. S'efforcer de conserver l'unité de l'esprit, c'est la mission qui incombe d'abord aux chrétiens qui se retrouvent dans un groupe GBU, amis du GBU, église ou quelque autre groupe qui se réclame de Jésus-Christ. Nous venons d'horizons différents et nous avons du mal à réaliser que l'unité de l'esprit se pose en préalable à toutes les différences que nous rassemblons. Et il me semble que lorsque nous essayons de sceller l'unité d'un groupe, de constituer l'unité d'un groupe, nous inversons souvent la démarche que Paul indique ici. Il me semble que nous avons toujours tendance à renverser la perspective qu'il indique, à savoir que nous avons des attitudes qui consistent à construire l'unité de la foi pour parvenir à l'unité de l'esprit. Et c'est quand vraiment on a pu se mettre d'accord ou quand on s'est vraiment expliqué sur la foi, la doctrine, qu'alors nous semblons être parvenus à l'unité de l'esprit. Or, le texte de Paul nous indique exactement la démarche inverse. Ce qui est donné, c'est l'unité de l'esprit. Ce à quoi je dois parvenir, c'est l'unité de la foi. Et si je renverse les perspectives, si je veux essayer de parvenir à l'unité de l'esprit au travers de l'unité de la foi, eh bien, je ne vais jamais y arriver. Je ne vais jamais y arriver. Parce que l'unité de la foi, elle passe, verset 11, par le ministère des apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, etc. Il y a une réfraction de la foi au travers de tous ces ministères. Et ce que tous ces ministères peuvent faire, c'est indiquer des directions vers l'unité. Mais si j'attends que l'unité soit réalisée au niveau des expressions doctrinales, on a déjà attendu 20 siècles, on peut attendre un peu plus, mais on n'y arrivera pas. Nous arrivons tous avec des enseignements divers dans les groupes GBU. Nous arrivons tous avec des formations diverses. Et la première tâche qui nous est faite, qui nous est donnée, c'est d'essayer de saisir par la foi que nous recevons en préalable à toutes nos différences l'unité du Saint-Esprit, que nous ne pouvons pas nous dire chrétiens sans nous dire unis dans le Saint-Esprit, que c'est la réalité même du corps de Christ. Comment conserver l'unité du Saint-Esprit ? Par le lien de la paix. Le lien de la paix c'est une qualité de relation. Je n'apprends rien à personne. Mais en tant qu'elle s'attache à conserver l'unité de l'esprit, la paix est une tâche prioritaire. C'est une tâche prioritaire, c'est une mission prioritaire. Et c'est une mission qui est fondée sur la Trinité même. Ce passage, ce début de quatrième chapitre de l'Épître aux Éphésiens, vous le relirez, c'est un passage trinitaire. Dieu est une personne. Lorsqu'il s'intéresse à nous, il s'intéresse à nous comme une personne. La notion même de notre personne est fondée dans l'absolu de Dieu. La personne existe dans l'absolu. Dieu est une personne. Et si nous vivons Dieu comme un simple pillard d'existence, alors nous n'avons pas compris ce que Dieu attend de nous. Ce qui en nous l'intéresse, c'est notre personne. Et c'est cela qu'il veut sauver. C'est notre personne qu'il veut sauver. Et si nous ne comprenons pas cela, alors nous allons évangéliser comme pour changer les personnes. On ne change pas les personnes. J'aimerais lire un poème de Jean Cocteau parce que je l'ai trouvé tout à fait typique du côté négatif. J'aimerais que vous l'entendiez en négatif de ce que le Saint-Esprit veut faire en nous. C'est tiré du recueil de poèmes Clair-obscur. Vous avez cru pouvoir me changer de personne. Et vous m'en avez fait deux. Les autres ne croyant à rien de ce qu'on donne si l'offre ne vient pas d'eux. Alors qu'il aille en paix, mon double, et bouge à votre guise. C'est le rôle des pantins. Car cet accoutrement dont un arme déguise avance tout feu éteint. Caché, je vis caché sous un manteau de fable, plus tenace que la poix. Et je ne laisse jamais d'empreinte sur vos sables, mon corps n'ayant aucun poids. Le Saint-Esprit veut faire exactement l'inverse de ce qu'écrit Jean Cocteau. La personne est fondée dans l'absolu. La mission d'évangéliser que le Seigneur nous donne vise des personnes. Mais la Trinité ne nous enseigne pas seulement que la personne est fondée dans l'absolu, la Trinité nous enseigne aussi que la relation est fondée dans l'absolu. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et la relation des trois personnes de la Trinité est fondée dans l'absolu. La relation n'est pas un avatar de la personne, n'est pas une excroissance de la personne. La relation est dans la personne même.